franceinter.fr.
Le journal d'Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. De retour à Paris, fatigué mais soulagé, le journaliste Lou Bureau, emprisonné en Turquie pendant 51 jours, a été accueilli ce matin à Roissy par ses proches et la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Une deuxième arrestation outre-Manche après l'attentat de jeudi matin à Parsons Green. C'est un homme de 21 ans qui a été arrêté hier soir en banlieue de Londres. L'union des droites contre l'arnaque Macron, c'est le nouveau credo de Nicolas Dupont-Aignan qui lance une plateforme participative pour bâtir son programme. J'aime les communistes et ils le savent, mais qu'ils respectent ce que je fais. Jean-Luc Mélenchon, en visite à La Réunion, répond à Pierre Laurent, le secrétaire national du PC, qui lui reprochait son absence à la fête de l'humanité. Dans ce journal également, un film qui met en rage les ultra-orthodoxes en Russie. Un meeting-concert exceptionnel du printemps solidaire, place de la Concorde à Paris cet après-midi. Et puis l'équipe de France a un petit point de la finale de la Coupe Davis, le match de Tsonga dans un instant, juste avant de vous rejoindre Ali Badou pour la deuxième partie de Questions politiques, juste après ce journal.
Et dans la deuxième partie, le face-à-face Natacha Polony-Raphaël Glucksmann et le grand débat Emmanuel Macron est-il légitime à mener ses réformes avec Charlotte Girard, elle est porte-parole de la France Insoumise, et Dominique Régnier, le directeur du think tank libéral Fondapol.
Merci Ali Badou, à tout à l'heure.
France Inter.
Très soulagé de revenir en France, on le serait à moins. Le jeune reporter Lou Bureau, emprisonné pendant 51 jours en Turquie, est donc rentré ce matin à Charles de Gaulle. Évidemment très éprouvé, ses proches étaient là pour l'accueillir, aux côtés de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, Ilan Malka.
Oui, il est 9h30 ce matin lorsque Lou Bureau s'avance vers la presse, quelques minutes après avoir retrouvé ses proches. Il semble épuisé, mais il nous dit quand même quelques mots.
Je suis très soulagé d'être venu. Ça a été un peu une surprise pour moi d'avoir été libéré parce qu'il n'y avait rien qui pouvait m'annoncer que j'allais être libéré. Mais voilà, aujourd'hui je suis très fatigué mais très content d'être là et j'espère pouvoir profiter de mes proches dans les prochains jours. Et jusqu'à ce matin, j'étais pas sûr de partir. J'ai eu très peu d'informations en fait. On me disait vous êtes libéré mais où, comment, quel avion. Après voilà, ce matin on m'a mis dans l'avion et c'était terminé.
Lou Bureau affirme avoir été traité correctement lors de son enfermement, mais cette déclaration est très vite nuancée par son père, Loïc Bureau.
La semaine de garde à vue, il a été traité comme les prisonniers kurdes, donc il a subi des sévices physiques et psychologiques. Voilà. À partir du moment où il y a eu l'intervention de M. Macron, ça a été une protection. Voilà. Les gardiens l'ont entendu, la parole du président de la République, ça protège un journaliste français n'importe où dans le monde.
En Turquie, la procédure contre Lou Bureau n'est pas terminée. Un procès doit se tenir prochainement. S'il est condamné, cela limitera ses déplacements. Il ne pourra plus se rendre dans les pays qui pourraient l'extrader.
Et pour l'avocat de Lou Bureau, il n'y a pas eu de contrepartie à cette libération. De son point de vue, faire comprendre aux autorités turques le tort qu'elles se faisaient en emprisonnant un journaliste français a pu être suffisant, dit-il. Une deuxième arrestation à Londres dans l'enquête sur l'attentat de Parsons Green jeudi matin qui a fait 30 blessés dans un train de banlieue. Un homme de 21 ans a été arrêté hier soir à Hounslow, à l'ouest de la capitale britannique. Un premier suspect de 18 ans, interpellé hier matin à Douvres, est toujours en garde à vue, Antoine Gignot.
Oui, et le poseur de bombes n'était donc sans doute pas un loup solitaire. C'est ce que confirme Amber Rudd, la ministre de l'Intérieur britannique. Il est tout de même trop tôt, dit-elle, pour savoir si c'est une véritable cellule terroriste qui a déclenché vendredi un engin explosif dans une rame de métro à la station de Parsons Green. À 23h50, hier soir, les policiers ont arrêté un homme de 21 ans à Hounslow, en banlieue ouest de Londres. Il a passé la nuit au poste. Et l'autre suspect, le jeune homme de 18 ans interpellé hier matin à Douvres, près du terminal des ferries, a lui aussi été transféré dans la capitale pour être interrogé. Les enquêteurs de la brigade antiterroriste expliquent qu'ils sont en possession de plusieurs objets sans donner plus de précision. Aucune information non plus pour l'instant sur la perquisition qui a eu lieu à Sunbury sur la Tamise, au domicile d'un couple de retraités, un homme et une femme qui depuis plus d'une décennie ont joué le rôle de famille d'accueil pour des centaines d'enfants.
Antoine Gignot à Londres. En politique, pour l'union des droites et contre l'arnaque représentée selon lui par Emmanuel Macron, le président de Debout la France, l'ex-candidat Nicolas Dupont-Aignan, continue de décliner son nouveau credo en appelant ses partisans à ne pas se résigner. Nicolas Dupont-Aignan au micro de Julien Langlais.
Les Républicains ne gagneront jamais seuls. Debout la France, malgré votre talent, votre énergie, votre génie, ne gagnera pas seul. Le Front National ne gagnera pas seul. Quant aux patriotes de la gauche républicaine, que je n'oublie pas, veulent-ils continuer à disparaître de la scène politique à force de se renier et à être les alibis du système? Bref, l'union est indispensable. Aucun ne gagnera seul. Il n'est pas possible de continuer à voir nos électorats pris en otage. Et encore une fois, il n'est pas question de l'avenir de Laurent Wauquiez, de Nicolas Dupont-Aignan, de Marine Le Pen, de Jean-Frédéric Poisson ou d'autres. Il n'est pas question de voir au devant de la scène la question de DLF, des Républicains, du Front National. Il est simplement question de sauver notre pays.
Nicolas Dupont-Aignan qui lance une plateforme participative pour bâtir son programme. À gauche, une direction communiste en perdition. La réponse du berger Mélenchon à la bergère Pierre Laurent. Le secrétaire national du Parti communiste avait taclé le leader de la France insoumise, absent cette année de la fête de l'UMA. Ce que n'avaient pas apprécié ses représentants, notamment le député Adrien Quatennens, déçu par ce qu'il appelait une charge en règle. À critique, critique et demi, ce matin, l'ex-candidat à la présidentielle en visite à La Réunion, a livré sa propre réponse tout en ménageant les militants.
Je vous ai dit, c'est du Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Bon, je vois bien qu'il y a une espèce d'escalade. Hein. Je veux bien faire semblant, mais j'arrive pas à m'y intéresser. Bon, j'étais invité au convoqué, là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les communistes sont toujours mes amis. Ils viendront par dizaines de milliers au rassemblement. Le 23, c'est pas un sujet pour moi. C'est pas parce qu'il y a une direction communiste en perdition, qui s'accroche maintenant, qui ne s'exprime plus que contre moi. Je vais pas m'arrêter à ça, sinon on fait plus rien. Mais les communistes, c'est pas un problème pour moi, c'est une solution. Ils ont toujours été dans l'action avec moi et ils savent que je les aime et les respecte dans ce qu'ils sont. Mais aussi, je dis, écoutez, respectez ce que je fais, quoi. C'est pas la peine de tout le temps être en train de dire pas de culte de la personnalité. Dès que je suis pas quelque part, tout le monde pleure parce que j'y suis pas.
Un film qui fait polémique en Russie, a priori pourtant bien inoffensif, l'histoire de la liaison du tsar Nicolas II et d'une ballerine, Mathilda, dont le prénom fait le titre du film. Sauf que le dit tsar a été canonisé par l'église orthodoxe, ce qui fait de lui, du point de vue des ultras, un intouchable. Et la romance, filmée par Alexei Uchitel, est pour eux une insulte à la sainte Russie. Le cinéaste a été menacé de mort, un cinéma a été brûlé, et le Kremlin, qui défend la religion orthodoxe, se voit bien embarrassé par ce qu'il appelle lui-même des extrémistes. Claude Bruyot.
L'offense envers les sentiments religieux est un délit caractérisé par une loi depuis 2013 en Russie. Dans le prolongement de l'affaire des Pussy Riot, le Kremlin et la hiérarchie orthodoxe n'avaient sans doute pas anticipé l'effet démultiplicateur de cet interdit. Dans la Russie de Vladimir Poutine aujourd'hui, on brûle des voitures, on menace de mort ceux qui tentent de raconter la romance de Nicolas II avec une ballerine, au prétexte que le dernier tsar de Russie est un saint orthodoxe auquel on ne touche pas. Pour le cinéaste Pavel Lungin, cette censure qui vient finalement d'une partie de la foule n'annonce rien de bon.
C'est tragique, c'est triste, parce que c'est la mort de la culture en principe, parce que maintenant on peut prendre un livre sur une insulte et brûler un livre, fermer le spectacle, on peut fermer les expositions, tout ça au nom de orthodoxie, au nom de la religion. Moi je pense que c'est un prétexte pour se manifester et pour faire peur.
La peur qui gagne encore du terrain à 5 semaines de la sortie du film. Le premier exploitant de salles de Russie a renoncé hier à projeter Mathilda. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Mathilda qui doit sortir officiellement en Russie fin octobre. À Saint-Martin, 10 jours après le passage d'Irma, les pelleteuses sont entrées en action en attendant les travaux de reconstruction, le rétablissement de l'eau et des moyens de communication. Les recherches continuent dans le lagon où de nombreux bateaux ont sombré. L'ouragan a fait 11 morts dans les deux îles françaises où quelques personnes sont encore portées disparues et peu à peu se précise le portrait des victimes identifiées telles Judy Richardson, jeune retraitée qui n'avait pas évacué son domicile, Béatrice Duguay.
Elle s'appelle Judy Richardson. Elle habitait un coin de paradis au ras de la mer Caraïbe dans le quartier très populaire de Sandy Ground. Paradis qu'elle n'a pas voulu quitter la nuit où les eaux et le ciel se sont déchaînés. Tout juste retraitée, Judy Richardson avait 65 ans depuis le mois de mai, mariée depuis près de 50 ans avec celui qui a tenté de lui sauver la vie alors qu'elle était emportée par la mer. Il l'a vue disparaître au milieu des flots, des tôles, des débris de maison. Et si les voisins ne l'avaient pas retenu, il se serait noyé lui aussi. Il est aujourd'hui très traumatisé. 6 enfants pour ce couple uni, 5 filles, 1 garçon, des petits-enfants aussi. Cette femme très calme, comme sa sœur l'a décrit, a travaillé au centre culturel de Sandy Ground avant de finir sa carrière dans une école au service de gamins. Son corps a été retrouvé dans le lagon voisin à près de 500 mètres de là où elle a été emportée. Elle repose toujours aujourd'hui à la morgue de l'hôpital en attendant d'être inhumée par les siens. Saint-Martin, Béatrice Duguay, France Inter.
Et voilà qu'une tempête tropicale s'annonce sur les Antilles, la 13e cette année dans l'Atlantique Nord, mais rien à voir avec Irma. Elle devrait passer entre Guadeloupe et Martinique dans la nuit de lundi à mardi. Ce matin, c'est au Japon qu'un puissant typhon a touché terre au sud du pays où le trafic ferroviaire a été interrompu, des centaines de vols annulés, des pluies torrentielles devraient arroser ce dimanche une grande partie du Japon, dont Tokyo. En 24 heures ont été battus sur l'archipel d'Okinawa tous les records de pluie des 50 dernières années. C'est le printemps. En revanche, sur la place de la Concorde à Paris, en ce moment même et tout l'après-midi, toute une série de concerts gratuits, Mathieu Chedid, Yael Naïm ou Tikenja Fakoli, le printemps solidaire, appellation contrôlée qui regroupe de très nombreuses associations à vocation internationale avec un slogan, faire de 2017 l'année du 07, allusion au 0,7% de son budget que la France a promis de consacrer aux pays en développement, promesse toujours renouvelée mais jamais tenue, au grand regret de Luc Barrouet, le porte-parole de la manifestation.
C'est une promesse qui a été faite à l'OCDE en 1970 et que 48 ans plus tard, nous ne tenons toujours pas. Nous sommes à peine à 0,38 aujourd'hui et donc c'est un petit peu ce qu'on dénonce et on aimerait vraiment que le président Macron, nouvellement élu, il s'empare du sujet et soit le premier président à tenir cet engagement, notamment dans une période où on considère que plus que jamais la solidarité internationale et l'aide publique au développement sont un enjeu majeur. On est bon pour prendre la parole notamment à l'ONU, mais on est moins bon pour faire face aux engagements qui ont été pris. Donc la réalité c'est qu'aujourd'hui la France, alors qu'elle est la 5e puissance mondiale, c'est la 12e nation en termes d'importance de financement de l'aide au développement. Et dans la période actuelle, en tout cas sur les deux dernières années, cette aide à l'échelle mondiale a augmenté de 7% et la France n'a pas suivi le mouvement. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on vient rappeler, même si on a bien conscience que la période est difficile, on considère que c'est pas sur ces crédits-là qu'il faut faire des économies.
Meeting concert exceptionnel jusqu'à 22h sur la place de la Concorde avec aussi Lavillier, Souchon, Trio, Archive ou Métronomie. La date était notée dans leur agenda depuis des mois. C'était ce matin 9h, l'ouverture de la chasse dans toute la moitié nord du pays, à quelques départements près. Dans le sud, c'était dimanche dernier. Ils sont plus d'un million de chasseurs dans l'Hexagone, dont environ 70 000 dans les Hauts-de-France. Des hommes, très majoritairement, mais aussi quelques femmes, quelques chasseuses plutôt jeunes comme Solène qu'Antoine Sabag a rencontrée.
Jeune, elle n'a que 20 ans, cette blonde coquette a bien conscience de casser les codes et les préjugés sur la chasse.
On a toujours un stéréotype un petit peu du chasseur, un petit peu bourru, avec des bonnes couleurs bien vives et tout ça avant de partir à la chasse. Après oui, je pense que le fait d'être une fille, ça dénote un petit peu des chasseurs en général.
Solène, étudiante en podologie, chasse depuis 4 ans. Une façon de se rapprocher d'un grand-père, lui-même chasseur, qu'elle n'a pas connu.
Partager quelque chose avec lui, en fait, du fait de n'avoir rien partagé avec lui. Puis mon premier gibier, à chaque fois, je lui dédicace du coup.
À peine 2% des chasseurs sont des femmes et pour Philippe, un passionné, elles ont une manière plus douce de manier le fusil.
Et elles ont, je pense, une vision un petit peu différente du monde de la chasse. Moins attirée par le tableau de chasse, une vision un petit peu plus en lien avec la nature.
50 ans, c'est l'âge moyen du chasseur français. Alors Solène, trésorière de l'association des jeunes chasseurs du Nord, aimerait préparer la relève et attirer des gens de son âge.
Enfin, c'est pas tuer pour tuer. Derrière, il y a vraiment tout un environnement. C'est le plaisir à partager avec d'autres personnes. Dans la nature, le calme.
On peut avoir un permis de chasse dès 16 ans et même commencer à 15 avec l'opération chasse accompagnée.
La saison de la chasse sera close fin février. En sport du tennis, en ce moment même, Tsonga vs Lajovic en demi-finale de Coupe Davis pour apporter le point qui manque à l'équipe de France. 2-1 pour l'instant face aux Serbes. Alors qu'est-ce que ça donne, Fabrice Abgral?
Pour l'instant, le match vient tout juste de débuter. 5 minutes de jeu très précisément. Joe Wilfried Tsonga est au service, occasion pour lui de mener 1-0 dans le premier set. Alors on connaît les derniers du problème. Les Français n'ont plus qu'un point à marquer. Et s'il marque ce point, eh bien, ils seront qualifiés pour la finale. Bref, en d'autres termes, il suffit que les Français remportent l'un des deux derniers simples de la journée pour atteindre la finale. Ce serait la 18e finale de la France en Coupe Davis depuis la création de l'épreuve en 1900, la 3e depuis 2010. Mais pour cela, donc, il faut tout d'abord, dans un premier temps, que Joe Wilfried Tsonga donc batte Dusan Lajovic. Et puis, malheureusement, si Tsonga perd, eh bien, tout se jouera alors dans un cinquième et dernier match, un dernier match couperet, un match à qui tout double, qui mettra aux prises alors Lucas Pouille et Laszlo Djere. On n'en est pas là. Pour l'instant, Joe Wilfried Tsonga est sur le court. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Lui, le numéro 1 français, 18e mondial, opposé au 80e joueur mondial. Donc, Dusan Lajovic, un spécialiste de la terre battue. Il va falloir que Joe Wilfried Tsonga se méfie très sérieusement, tout en que Dusan Lajovic a été très impressionnant le premier jour, vendredi, quand il a battu Lucas Pouille. Tsonga est toujours au service. Attention, balle de break en faveur de Dusan Lajovic. Occasion pour lui donc de mener 1-0. Service à suivre.
Fabrice Abgral à Lille, et en cas de victoire, la finale, ce sera contre l'Australie ou la Belgique.